La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots est aujourd'hui une danse qui parle, ce qui est tout à fait normal, c'est induit par le titre même de cette rencontre quotidienne. La danse des mots, ce sont des mots qui parlent en dansant ou une danse qui danse en parlant, avec aujourd'hui deux invités, Gisèle Pinault qui va nous parler du dernier roman qu'elle a écrit et qui vient de sortir aux éditions du Mercure de France, Le Parfum des Sirènes, et Josh Dozen qui est l'infatigable animateur de ces palabres autour des arts, des rencontres artistique et surtout littéraire régulière, dont la première pour cette nouvelle saison aura lieu demain. Bonjour Gisèle Pinault.
Bonjour.
Bonjour Josh Dozen.
Bonjour Yvan.
Donc je parlais de ces palabres autour des arts, comme si on les connaissait tous, on les connaît un petit peu, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez en parler, non, au micro de la danse des mots. Néanmoins, rappelez-nous un petit peu quel est le principe de ces rencontres.
Donc les palabres autour des arts, c'est le principe, c'est bimensuel maintenant, avant c'était tous les mois, c'est de rencontrer des livres. Déjà en priorité, c'est de rencontrer des livres. C'est sur un thème donné, donc cette fois-ci ça sera sur la sexualité, mais ça peut être sur la revendication, ça peut être sur l'engagement, ça peut être sur l'alcool, ça peut être sur la nourriture, mais autour de ce thème, de sélectionner un certain nombre d'ouvrages récemment parus ou plus anciens, qui viennent d'auteurs des Afriques, donc la Caraïbe, l'Afrique, ou...
Les Afriques.
Oui.
C'est-à-dire que pour vous, la Caraïbe, c'est l'une des Afriques.
Exactement,
c'est l'une des Afriques. On y reviendra.
On y reviendra. C'est pour ça que justement, je le dis au pluriel, des Afriques. Et, avec l'objectif principal de faire connaître, ces littératures-là, de faire connaître ces livres-là. Donc, en trois parties, trois parties distinctes, on commence par chroniquer ces livres avec des camarades lecteurs qui viennent de tout horizon. On en parle le plus honnêtement et le plus franchement possible, si c'est possible d'être honnête sur des romans. Et ensuite, on a une deuxième partie où on reçoit un auteur. Là, on a un dialogue un peu plus dense avec un auteur sur une œuvre là aussi récemment ou anciennement parue. Et on finit toujours, parce que c'est le principe de la palabre, on finit toujours sur une troisième partie où on déroule, on discute avec le public venu nous rencontrer sur le thème de la soirée, et ça permet à chacun de s'exprimer et de mettre en avant les autres littératures qu'ils auraient pu rencontrer sur ces thèmes-là.
Donc vous commencez par des chroniques des livres, des chroniques que vous n'êtes pas seul à faire, Joss, même si vous y participez parfois. Il y a donc toute une équipe de chroniqueurs qui viennent et qui disent « moi j'ai lu tel livre, j'en ai pensé du bien pour telle raison, du mal pour telle raison ».
Exactement, c'est vraiment ça le principe. C'est une équipe qui a beaucoup bougé. Nous avons été à un moment une quinzaine, aujourd'hui nous sommes un peu moins nombreux, et sur chacune des rencontres on va être soit deux, soit quatre, soit cinq, ça dépend vraiment de la disponibilité déjà de chacun, de l'appétence de chacun pour les livres, et vraiment c'est ça, c'est nous sommes des lecteurs, le lecteur lambda on dira, le lecteur lambda qui vient donner son impression de lecture. Alors il y a des lecteurs qui ont une sensibilité plus stylistique, on va dire, qui vont beaucoup insister sur l'écriture, sur la langue, sur la narration. Il y en a d'autres qui sont d'abord des gens qui aiment entendre ou lire des histoires, des belles histoires, donc ils vont insister sur la qualité de l'histoire ou l'intrigue. Mais l'important, c'est que nous assumons la subjectivité, évidemment, de nos avis. Et l'important, c'est que derrière, on donne envie aux gens d'aller faire comme nous, de prendre des bouquins et de lire des livres.
Il y a des petites lectures justement dans ces rencontres. Est-ce que chacun des chroniqueurs parfois choisit de lire un extrait ou de faire lire un extrait ?
Oui, c'est pas imposé évidemment, mais c'est très souvent quand on tombe sur un livre qui a une très forte, on va dire un très fort choix stylistique. Il est évident qu'il faut l'entendre le livre. Il y a des livres, à un moment, il y a des textes, il faut pouvoir les lire devant tout le monde pour qu'ils comprennent. Quand on dit que le livre est superbement bien écrit, il faut pouvoir à un moment le lire, quoi.
Et encore une question sur cette première partie des rencontres. Est-ce que chaque fois qu'un chroniqueur a donné son avis sur un livre, le public répond un petit peu, ou bien tout ça c'est réservé à la dernière partie? Est-ce qu'il y a
un échange avec le public?
Un échange dès le début, disons.
On ne limite pas, parce que très souvent, évidemment, les livres, tout le monde ne les a pas lus dans la salle. Ce que nous nous n'aimons pas trop, c'est d'avoir des interventions de gens qui n'auraient pas lu, donc qui seraient là en position de poser des questions, parce que le principe n'est pas de poser des questions. Par contre, dans le public, quand il y a des gens qui ont lu, évidemment, c'est une palabre, ils sont fortement encouragés à venir confronter leur avis sur le livre par rapport à ce que nous avons pu ressentir.
Alors, Jos, puisqu'il y a des livres qui sont mis en question, dites-nous un petit peu quels sont les 5 livres dont vous allez parler demain.
Donc, il y a en plus, évidemment, du livre de l'invité, donc le livre de Gisèle Pinault, nous avons
Le
Parfum des Sirènes. Nous avons 4 autres romans. Il y a le roman de Ernest Pépin, Le Tango de la Haine. Nous avons le livre d'une jeune Camerounaise qui est basée justement à Yaoundé, Ernestine Bankou, qui s'appelle Obsession. Nous avons un troisième roman. Nous avons 2 Sénégalais ensuite, Radiane, avec Demain, Si Dieu le veut. Et Mohamed Bougarsar, qui est un peu mon chouchou du moment, qui est avec son dernier roman, De Purs Hommes.
C'est Gérald Toto qu'on entend dans La Danse des Mots et qui nous ramène à Palabre autour des arts, qui vont donc se reprendre et se dérouler demain. Alors, à quel endroit, Jacques Dozen? Puisque les endroits, il y a une périodicité à peu près tous les 2 mois, me semble-t-il.
Exactement.
Et ça se passe où demain? Ça change aussi chaque fois.
Oui, ça change chaque fois parce que nous voulons aller à la rencontre des lecteurs là où ils sont. Et demain, ça va être dans un restaurant qui est du côté de Châtelet, 21 rue Lescaut, qui s'appelle Moussa l'Africain. Donc ça permettra derrière de parler littérature, de remplir l'esprit et ensuite de remplir le ventre.
Alors, il y aura 5 invités, 3 femmes, 2 hommes, et 5 romanciers. Oui, une invitée, mais 5 romans invités.
Exactement.
2 qui viennent de la Caraïbe, celui d'Ernest Pépin, Un tango de la haine, et puis le livre de Gisèle Pinault, et 3 autres qui viennent d'Afrique. Vous avez choisi le thème de la sexualité. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un thème qui est facilement abordé dans les romans et que la forme du roman, la forme de la fiction permet de dire des choses qu'on n'aurait pas pensé de la même façon ou qu'on n'aurait pas osé dire de la même façon si on n'était pas dans un contexte d'histoire inventée, de fiction?
Justement, le principe, c'était de voir si les auteurs aborder ces questions-là et aborder les questions douloureuses qui sont liées à la sexualité, pas que les questions d'ailleurs
douloureuses. Ah oui, la sexualité n'est pas systématiquement douloureuse.
Exactement, et parler...
Ça vous fait rire, Gisèle ?
Oui, ça, bien sûr, ça me fait rire. Mais les personnages sont de chair et de sang. Et les personnages, pour que je les rende vivants, il faut qu'ils aient une sexualité. Mmh. Et pour moi, je ne me censure pas quand j'écris. Joss m'a souvent dit que dans mes livres, il y avait beaucoup de sexualité. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas...
Ce sont des livres pulpeux, ça c'est sûr.
Ce sont des livres avec une certaine... écrit avec une certaine sensibilité et je veux explorer mon personnage sous toutes ses facettes. Je veux pas que ça soit un personnage d'encre et de papier. Je veux que ça soit vraiment quelqu'un que les lecteurs vont imaginer vivant, quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui s'incarne et qui vit pleinement.
Alors, je vous pose la question que je viens de poser à Joss, mais Joss peut répondre aussi. Est-ce que vous avez l'impression que quand on est dans un roman, on peut se permettre quelque chose qu'il est plus difficile de se permettre dans une parole, dans une discussion ordinaire? Est-ce que la forme du roman permet de temps en temps de s'affranchir, quoi?
Mais pour moi, écrire, c'est la liberté, c'est un territoire que je vais conquérir, c'est un espace où tout est permis. Et souvent, les lecteurs me disent, mais Gisèle, quand on te voit comme ça, tu parais toute douce.
Vos lecteurs vous appellent Gisèle et vous tutoient, ça c'est bien.
Bien sûr, et puis d'autant plus que je vis à Marie-Galante, une terre, une petite île magnifique au large de la Guadeloupe, où tout le monde se tutoie. Alors voilà, il y a cette proximité avec mes lecteurs, et j'espère qu'elle sera là au rendez-vous demain, parce que j'attends beaucoup de ses lecteurs, des beaucoup de questions. Voilà, je vais répondre à toutes les questions. Je vais parler de mes personnages, comment j'écris, comment ils naissent dans mon imagination, comment ils s'incarnent sur le papier.
Joss, qu'est-ce que vous en pensez?
Et sur la question de la sexualité, faut dire que ce thème, on en a discuté un peu rapidement en équipe, et c'est venu très vite avec l'actualité, évidemment, l'éducation sexuelle et autres. Et l'idée pour nous, c'était ça, c'était de voir si ces auteurs des Afriques-là abordaient ces thèmes. Et c'est particulier parce que autant que ce soit Ernest Pépin, que ce soit Gisèle Pinault ou d'autres auteurs de la Caraïbe, ça ne semble pas être un problème d'aborder que ce soit les choses, on va dire, positives de la sexualité, tout comme les douleurs qu'il peut avoir derrière. Mais on avait l'impression que dans les lectures d'auteurs africains francophones, hein, parce qu'il faut toujours un peu limiter à ce qu'on connaît, l'Africain francophone, il y avait une espèce de peut-être de pudeur où on n'allait peut-être pas au fond des choses, en tout cas sur les romans qu'on avait abordés. Il y a quelques romans grandioses là-dessus, Wologem qui a écrit les mille et une bulles de sexe, ou beaucoup d'auteurs, Samichak et autres, qui abordent ces questions-là. Mais l'intérêt de ce thème, pour moi, c'était de me dire, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça fait un tel ramdam, la question de l'éducation sexuelle des jeunes, des enfants, quand dans nos cultures, normalement, il y a cette éducation qui est censée être faite. Et je voulais retrouver dans les romans s'il y avait des auteurs qui rappelaient aux gens que dans les cultures africaines, dans les cultures de la Caraïbe, à un moment ou à un autre, il y a des parents, il y a des proches qui enseignent des choses ou qui disent des choses.
C'est peut-être ça qui pose un problème, Joss. Vous dites dans nos cultures. Et là, on parle de livres. Le livre, la culture écrite, est un point particulier de la culture africaine dans son ensemble. Exactement. Est-ce que justement, le fait de parler de sexualité revêt un habit, une apparence spéciale? Est-ce que la présence de la sexualité dans la littérature africaine, au sens large, puisque ça englobe les Caraïbes, on le disait tout à l'heure, est-ce qu'elle est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a, disons, une ou deux générations, c'est-à-dire entre 30 et 50 ans?
Sur le peu de connaissances que j'ai des romans justement qu'on lit, c'est vrai que c'était peut-être pas le focus, à part quelques exemples, encore une fois, comme Wologem, les autres auteurs n'abordaient pas spécialement ces thèmes-là.
Il y avait peut-être une pudeur,
c'est peut-être simplement qu'ils avaient d'autres urgences sur l'Afrique
francophone. L'urgence de la sexualité, elle est forte quand même.
Oui, mais quand on est par exemple sur la période des années 60 où on parle des décolonisations et autres.
On parlait plus volontiers des indépendances.
Des indépendances, ce genre de choses. Donc il y a peut-être des thèmes qui étaient plus facilement abordés. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas spécialement qu'un auteur me parle de sexualité dans son livre. Après tout, il va mettre un personnage, deux personnages qui ont une sexualité. C'était surtout peut-être essayer de savoir ce qui est, comment dire, s'il y avait des processus en place, si dans leur roman, ils parlaient de ces processus qui étaient en place pour accompagner les jeunes vers la connaissance de la sexualité. Je donne un exemple très simple. Dans le livre de Mohamed Bougarsar, où il parle donc des homosexuels au Sénégal, il parle du fait des Gordigens. Et il explique que les Gordigens, donc qui sont les femmes-hommes, existent de tout temps, puisqu'ils participent aux mariages, aux cérémonies, c'est eux qui sont des animateurs quelque part des mariages, ils ont toujours existé, et qu'à un moment, depuis on va dire une quinzaine, une vingtaine d'années, il y a une violence massive envers les homosexuels, alors que traditionnellement, ça a toujours existé. Et c'est intéressant pour moi quand on a ce genre de roman qui vous rappelle que ils ont toujours eu une place dans la société, il y a toujours eu des homosexuels dans la
société. Mais peut-être que leur place bouge en ce moment, justement.
Et la place a bougé, et c'est intéressant justement quand les auteurs rappelle un certain nombre de faits, d'évidences, et essaie justement de mettre ça en parallèle avec l'atmosphère ambiante.
C'est vrai, ça pose un autre problème. Est-ce que le roman sert à éduquer? Vous parlez vous-même d'éducation, que ça soit une éducation sexuelle ou une éducation politique. Le roman peut aider de temps en temps à se qu'on comprenne certaines choses, qu'on se familiarise avec un certain thème. Mais en même temps, un roman, c'est pas un livre de classe, c'est pas un livre pour éduquer. Pas explicitement, en tout cas.
Ah oui, pour moi, je pense pas que ça éduque de toutes les façons dans toutes les, enfin, je pense, moi, dans tous les pays, dans toutes les cultures, les gens qui lisent sont une très faible minorité. Par contre, par eux, transpire un certain nombre de choses. Les romans, pour moi, permettent d'apprendre aux gens ce qui se passe, évidemment, il y a l'évasion, mais ça permet de savoir que voilà ce qui se passe ailleurs, voilà ce qui se passait. Moi, quand je lis Gisèle Pinault et Ernest Pépin, ça m'épate de voir le lien qui est fait entre encore une fois, la sexualité et le passé des îles, le rapport des femmes à la sexualité ou des hommes à la sexualité par rapport à l'histoire des îles, moi ça m'intéresse. Quand je lis, Moses Isegawa qui est ougandais, ce qui m'intéresse c'est de voir qu'est-ce qui se passe le jour du mariage, qu'il y a la tante qui se trouve dans la case pendant le premier acte d'amour, et je me dis, tiens, ça se passe comme ça chez eux. Donc le roman sert à ça, le roman me sert à m'informer, me sert à découvrir des choses différentes, mais effectivement c'est pas le roman qui éduquera.
Oui, c'est vrai que dans Gisèle mes romans, Pinault. Les petites histoires intimes et familiales sont étroitement liées avec la grande histoire. Exactement. Dans mon précédent livre, Les voyages de Mary Cisal, je raconte l'histoire d'une jeune haïtienne qui va quitter Haïti et Port-au-Prince au lendemain du séisme qui a touché gravement Haïti en 2010. Et elle va subir un viol. Parce qu'il y a ça aussi de la part de son ami, de son compagnon. Elle aura deux enfants et puis elle va arriver sur cette terre guadeloupéenne et il y aura le regard qui sera porté sur elle. Elle va se battre énormément. Donc c'est aussi la place de la femme. La place de la femme est très très importante. Je veux décrire la femme dans toutes ses composantes, dans tous ses visages.
Abatinao, c'est Calypso Rose qu'on entend dans cette danse des mots qui invite aujourd'hui Jos Dozen, mais aussi Gisèle Pinault à propos du parfum des sirènes qu'on vient d'entendre. Alors, le parfum des sirènes met en scène un certain nombre de personnages. Évidemment, il y a Sirena, puisque cette belle femme, on commence le roman sur sa mort et sur la découverte de son corps. C'est peut-être le personnage principal, mais c'est pas le seul. Est-ce que vous considéreriez votre roman comme ce qu'on appelle un roman choral, avec d'abord plusieurs générations, plusieurs strates temporelles, puisqu'on revient avec un certain nombre de rétrospectives assez nombreuses et des personnages multiples?
Oui, c'est une saga familiale guadeloupéenne. Ça se déroule sur plus d'un siècle, avec en 1915 la mort de l'ancêtre Stanislas Dorius, qui laisse en héritage une terre, une grande terre, qui vont se partager ses descendants. Et puis c'est aussi l'histoire d'une famille qui va éclater. Dans les années 2000, les enfants vont partir et ils vont se disperser. Il y en a qui vont aller au Canada, d'autres en France, dans les provinces et à Paris. Et puis, il y a cette sirène qui va hanter cette famille pendant de très nombreuses années. C'est surtout un livre qui mène l'enquête. par le biais de la vieille cousine Ida, une femme qu'on dit insignifiante parce qu'elle a peur des hommes, justement. Celle-là a peur des hommes, elle ne veut pas que les hommes la touchent, l'approchent ou la regardent.
Probablement, dites-vous.
Bréhaine, c'est ça.
Et j'aime bien retrouver des vieux mots dans votre texte. Qu'est-ce que ça veut dire, une femme bréhaine? Très souvent, on dit ça plutôt à propos d'une génisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bréhaine?
Ce sont des mots qui sont restés de l'ancien français, qui sont restés dans la langue créole d'aujourd'hui, dans la langue contemporaine. Une femme qui n'a pas eu d'enfant, qui ne peut pas en avoir.
C'est une femme stérile, une femme bréhaine.
Mais cette femme occupe une place vraiment très très importante dans ce roman. Pendant près de 30 années, elle va suivre le parfum. Un parfum qu'elle aura senti le jour de la mort de Sirena, le 14 juillet 1980, et qu'elle va retrouver dans les années 2000. Et c'est ce qui l'amènera sur la piste de la personne qui est responsable de la mort de Sirena.
Alors, c'est l'histoire d'une famille, longue et grande famille. Est-ce que cette famille représente un petit peu une société guadeloupéenne, puisque ça se passe à la Guadeloupe?
Il y a des éléments de l'histoire de la Guadeloupe qui apparaissent à travers l'histoire de cette famille, mais c'est aussi l'histoire d'une femme. D'une femme qui se voulait libre, Sirena. D'une femme qui était joyeuse de nature et triste à la fois parce qu'elle a perdu ses parents lorsqu'elle était très jeune. Et c'est l'histoire d'une femme qui dansait, qui chantait, qui racontait des histoires aux hommes et qui laissait vraiment derrière elle un parfum sulfureux.
Et qui attirait les regards.
Qui attirait les regards et suscitait les jalousies.
Parce que cette sirène était belle.
Très très belle, c'était une très belle femme. Alors les hommes de ce petit endroit, de cette petite commune de la Guadeloupe, la désiraient fortement et les femmes automatiquement la jalousaient et craignaient qu'elle ne leur prenne leur mari.
Léone avait pris les choses en main depuis la mort de Sirena. Ma foi, la veillée s'était passée sans désordre, même si la racaille du Mandorius s'était présentée en masse. Contrairement à leur habitude, les Romiers n'avaient pas fait grand tapage. Certes, ils avaient bu jusqu'à plus soif, pissé dans les coins, vomi leurs rates, mais ils étaient restés dignes, polis dans leurs salutations, en usant même du français à l'heure des condoléances. Pour une fois, cette longue perche d'Ida avait été utile à quelque chose, admettait Léone. Assistée de la bien brave Louisette Saint-Glas, la cousine s'était née toute la nuit, servant les gens de bon gré, sans chigner ni regarder au grade ou à la qualité. À l'heure des prières, les deux s'étaient jointes aux dames du presbytère pour lire les psaumes et reprendre à pleine gorge les couplets des cantiques. Ida avait aussi été d'un grand secours en veillant seule le corps de la sirène, jusque tard le lendemain matin. Alors, c'est un extrait de votre livre « Le parfum des sirènes », Gisèle Pinault, qui m'intéresse à plus d'un titre. D'abord parce qu'on voit cette veillée, ensuite parce qu'on voit beaucoup de gens qui arrivent, et ensuite parce que ça donne une bonne idée de votre style. Et j'ai l'impression, en lisant ce livre, que c'est une sorte d'éloge du style indirect libre. Peu de dialogue, mais tout peut être un dialogue. La narration reprend une voix qu'on entend.
Effectivement, c'est une écriture où j'étais dans la joie. J'écrivais cette histoire, je me laissais porter par cette histoire et par tous les parfums qu'elle charrie. Et je voulais décrire cette veillée, je voulais décrire ces moments où la joie et la tristesse sont ensemble, mêlés, imbriqués, où il y a bien sûr des romiers, parce que c'est traditionnel dans les
Alors qu'est-ce
dans
qu'on appelle les romiers? Bien sûr que je voulais vous poser la question. On a parlé de Bréhaine, maintenant on parle de romiers.
On parle de romiers, ce sont les amateurs de Rome, les gars qui profitent des veillées pour s'inviter et consommer, puisque l'alcool va couler à flot, parce qu'on est triste, parce qu'il faut accompagner la famille, il faut être là. Il y a du tambour aussi, on entend des sons de tambour et les parmi les pleureuses.
Quel genre de tambour? C'est le gros cas.
Le gros cas, bien sûr. Il y a les cantiques, les femmes sont éplorées, elles sont autour du cercueil, assises autour du cercueil. Et puis les hommes sont un peu plus à l'écart, en train de siroter et de boire du rhum jusqu'au bout de la nuit.
Alors, il s'agit d'un récit, fait par une narratrice anonyme et qui parfois prend la parole. Quand elle dit « Ma foi, la veillée s'était passée sans désordre », on voit bien qu'on passe de la narration du roman à la narration d'un personnage qui se présente, puisqu'il dit « Ma foi » avec ce possessif. Le narrateur se montre sur scène, là.
Effectivement,
ou la narratrice.
La narratrice est l'âme, un peu comme un regard extérieur. Et j'avais beaucoup pensé, en écrivant ce livre, à Jazz de Toni Morrison, où c'était la ville qui regardait les personnages. Et c'est ma liberté, en fait, dans l'écriture. Les mots s'imposent aussi, d'une certaine manière, comme les personnages.
Les mots. Quel mot? C'est la question qui vient de façon tout à fait naturelle. Ça se passe à la Guadeloupe, autour d'un endroit tout à fait réel, qui est Saint-Robert, qui existe.
Il n'existe pas vraiment, hein. J'ai inventé le nom de cette commune.
Oh, c'est ça pas ressemble... vrai, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un quartier qui s'appelait Saint-Robert.
Mais oui, il n'y a pas de commune Saint-Robert.
Vous passez, d'accord, du quartier à la commune. Mais j'ai vu que c'était quand même largement ancré dans le réel. Vous voyez, j'ai vérifié. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit en français et qu'il y a comme une ombre portée du créole qu'on entend à peine, mais dont on se souvient quand vous dites, par exemple, que les hommes utilisaient même parfois le français à l'heure des condoléances. On se dit, mais depuis 50 pages, je lis en français. Mais ça veut dire qu'ils ne parlent pas vraiment en français? Qu'il y a une alternance des langues?
Il y a un jeu, il y a une danse entre ces deux langues qu'on maîtrise et qu'on utilise en certaines circonstances. Bien sûr, ces hommes, lorsqu'ils utilisent le français, c'est pour se montrer un peu cérémonieux. Ils vont utiliser une langue dite noble pour eux, parce qu'habituellement, il ne parle que le créole.
Mais le créole est présent dans votre façon d'écrire. Le souvenir du créole a-t-il une phosphorescence dans votre français, Gisèle Pinault?
Le créole est présent à travers mes mots, à travers ma langue française, à travers mon écriture française. Je n'écris pas dans le français standard, ce n'est pas possible. Lorsque je vais parler de personnages de Guadeloupe, je vais vraiment jouer avec les mots et faire entrer dans la langue française standard ces mots créoles, et même les constructions de phrases sont créoles parfois. Il faut qu'il y ait cette couleur créole, parce que si je ne l'utilise pas, je me sens trop loin de mes personnages, comme s'ils étaient de l'autre côté d'une rivière, et puis moi je les voyais de loin. Je veux m'approcher, presque toucher ces personnages.
Jos Dozen, vous n'êtes pas antillais, vous êtes africain, j'imagine que vous ne parlez pas le créole.
Non.
Est-ce que quand vous lisez ce livre de Gisèle Pinault, vous êtes sensible justement à cette présence sous-jacente?
Oui, mais c'est ce qui est extraordinaire avec le roman, c'est que on sent la langue de l'auteur en général. On voit bien que derrière il y a une langue différente. Il y a le français évidemment, mais il y a une langue différente. Quand j'ai lu coup sur coup Ernest Pépin et Gisèle Pinault, mais il y a une parenté de presque inconsciente, parce que quand on les lit, on se dit, mais je sais pas comment la définir. On se dit, est-ce que c'est la poésie est la même? Est-ce que leur poésie est la même? Est-ce que ils ont été élevés par les mêmes professeurs? Mais non, mais on se rend compte que c'est simplement parce que ils sont déjà de grands auteurs, et ce sont des auteurs qui ont un ancrage de la Guadeloupe, et donc ça écrit d'une certaine manière. Et effectivement, un auteur de la Caraïbe n'écrira pas comme notre très grand auteur du Sénégal ou du Mali.
Le fait d'être africain, Jos Dozen, est-ce que vous avez l'impression que ça vous rend plus sensible à ce rapport à la langue, justement?
Je ne pense pas que ce soit le fait que je sois africain, mais c'est peut-être le fait que j'ai une langue maternelle qui est autre que le français.
C'est un peu ce que je voulais dire.
Voilà, mais ça veut dire aussi que, quelle que soit la langue qui est utilisée, que ce soit celle de Gisèle Pinault ou une autre, je glisse plus facilement, je le comprends qu'il faut que je glisse dans une autre langue.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Jos Dozen. Je rappelle que donc vos palabres autour des arts reprennent demain à partir de 18h au restaurant Moussa l'Africain dans le quartier du Châtelet à Paris. Merci aussi à Gisèle Pinault qui sera demain chez Moussa l'Africain, qui est aujourd'hui ici avec son parfum des sirènes qui est paru au Marqueur de France et qui nous en a parlé dans La Danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopée et RFI, Marjorie Bertin, Véronique Durand, Lucie Bou.